Kukapi, 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 Kukapi.
Bonjour. L'eau desservie à la population, une bonne partie de la ville de Lubumbashi, au sud-est de la RDC, est au centre des controverses ces dernières semaines. Certains habitants pensent que cette eau est polluée, et d'autres la jugent potable. La deuxième station de la régie des eaux est soupçonnée de fournir une eau polluée. Et la station s'appelle Kalukuluku. Elle est située dans la commune de la Rwashi, à Lubumbashi. Selon les abonnés, l'approvisionnement d'eau laisse à désirer. L'eau coule difficilement au robinet, et surtout dans les quartiers populaires. Pour satisfaire leurs besoins en eau, les habitants recourent à un phénomène appelé Kishimpo. Qu'est-ce que ça veut dire? Joignons tout de suite à Lubumbashi notre confrère Donna Chimpo. Bonjour Donna.
Bonjour Walter.
Première précision, je voudrais aussi le savoir, ainsi que tous les auditeurs, quelle est l'origine du concept Kishimpo?
Eh bien Walter, Kishimpo est un néologisme fait de deux mots swahili. Je précise tout de suite qu'il s'agit du swahili de Lubumbashi. Alors, les deux mots sont d'abord Kishima, qui signifie puits. À Lubumbashi, puis ça se dit Kishima. Et le deuxième mot, c'est Mpompi. Mpompi signifie robinet. Alors, vous remarquez tout de suite, Walter, que chacun de ces mots a perdu sa dernière syllabe, parce que Kishima a perdu la dernière syllabe ma, tandis que Mpompi a perdu sa dernière syllabe mpi. Au pluriel, on dit Bishimpo.
Alors, on a bien appris la leçon, et puis l'origine de ce fameux concept, Kishimpo, qu'est-ce que ça signifie alors?
Eh bien, Walter, les mots signifient finalement un puits robinet. C'est tout à fait original, donc Kishimpo signifie un puits robinet. Il s'agit en fait d'un trou dont la profondeur varie entre 30 et 50 cm. Et l'eau de la régie des eaux coule dans ces puits en lieu et place du robinet. Et elle est recueillie dans un récipient que l'on y place, bien entendu. Et il va sans dire qu'en l'absence du récipient, l'eau remplit le trou et cela ressemble finalement à un puits. Et Kishimpo est donc, si vous voulez, un puits approvisionné par l'eau de la régie des eaux.
Une question, non de moindre, qui est-ce qui creuse ces fameux Kishimpo et pourquoi?
Eh bien, c'est la population, Walter, qui creuse ce puits-là, ces Kishimpo, et surtout les dames. Eh bien, généralement, elles creusent au bout d'un conduit d'eau, c'est-à-dire un tuyau d'eau, et ce, à la place où étaient installés les robinets. C'est-à-dire, nous savons qu'habituellement, la régie des eaux installe les robinets dans des parcelles. Alors, à l'endroit où se trouvaient les robinets, eh bien, au bout donc des tuyaux, les femmes creusent là-bas un trou, et c'est dans ce trou que coule l'eau de la régie des eaux, et ça provoque donc ce puits-là, et vous comprenez que le Kishimpo est creusé après que les robinets a été arraché.
Et qui aurait arraché les robinets auparavant?
Oui, ce sont les agents de la régie des eaux.
Et pour quelle raison?
Eh bien, les agents de la régie des eaux arrachent les robinets par rétorsion. Donc, c'est une mesure de rétorsion. Et d'après la régie des eaux, ces agents décident d'arracher les robinets des clients insolvables. Puis, ils plombent, ils ferment hermétiquement les conduits. Et maintenant, quand elle reste, les agents de la régie des eaux partis, eh bien, la population continue à avoir besoin de l'eau, naturellement. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle force, elle ouvre, ou alors elle casse carrément les tuyaux, et malgré ça, l'eau coule, et puisque, en fait, après avoir cassé ces tuyaux-là, l'eau n'écoule pas, presque pas du tout, puisque la pression est insuffisante. Et comme la pression est insuffisante, bon, on trouve une solution. Il faut creuser un peu en dessous du tuyau et placer un récipient. Et quand on creuse, maintenant il y a un peu d'inclinaison et l'eau maintenant peut commencer à couler. Et voilà, cela provoque les guiches impro. Je souhaiterais que vous écoutiez d'abord comment la régie des eaux, un responsable de la régie des eaux, explique l'origine du guiche impro. Il a lu sa version.
En fait, les problèmes de guiche impro, il y a plusieurs origines. Il y a un aussi le problème d'abord de pression, et il y a aussi un deuxième point, acte de vandalisme. Effectivement, pour certains, la pression est faible, alors ils creusent jusqu'au niveau de la conduite mère et ils commencent à puiser de l'eau assainie. Mais il y a d'autres, c'est quand ils n'ont pas payé, quand on coupe les actions de répression pour qu'ils puissent bien payer, mais à ce moment-là, ils enlèvent les tuyaux jusqu'au niveau de la conduite et ils se créent aussi les chimbos.
Donc il y a ce problème qu'on vient d'entendre, c'est une explication d'un agent de la régie des eaux, mais dites-nous, Donna, comment la population, elle, justifie-t-elle le fait qu'elle est obligée de recourir au bichimpo, pluriel des kishimpo?
Eh bien, Walter, pour la population, la cause du recours, l'explication du recours au bichimpo, c'est tout simplement la faible pression de l'eau. Et pour la population, l'eau coule très très faiblement, et nous avons été sur les lieux, effectivement, l'eau coule très très faiblement pour remplir, par exemple, un gobelet. Et vous avez besoin de 3-4 minutes. Et donc, quelle que soit la hauteur à laquelle est placé votre robinet, en tout cas quand vous êtes à la Kenya, l'eau n'écoule pratiquement pas. Mais si les conduits, si votre tuyau est à même le sol, vous n'aurez toujours pas de l'eau. Il faut creuser, et quand vous creusez, et maintenant l'eau peut commencer à couler. Alors pour les uns, la régie des eaux, et là ce sont naturellement des radicalistes, donc pour les uns, la régie des eaux ne devrait même pas les facturer, puisque elle a carrément échoué dans sa mission. Et l'eau n'écoule que pendant la nuit, d'après cette population-là, l'eau n'écoule que pendant la nuit, entre 3h et 5h, et d'ailleurs pas chaque jour, elle peut couler deux ou trois fois seulement par semaine, et vous comprenez le calvaire, Walter. Alors pour les autres, ils disent que la population ne refuse pas du tout à payer, de payer plutôt. Elle est obligée de négocier avec les agents de la régie des eaux qui sont chargés du recouvrement, puisque eh bien la population n'a pas d'autre solution, elle n'a pas autre part pour se procurer de l'eau. Alors la population rejette carrément donc la thèse de l'insolvabilité qu'avançait les responsables de la régie des eaux tout à l'heure. Alors pour eux, ils n'ont jamais cassé les robinets pour chercher à s'approvisionner gratuitement en eau. Et je vous propose, Walter, d'écouter la justification de l'existence de Kishimpo que donne une dame de la Kenya. Nous l'avons rencontrée, et en face d'elle, il y avait un Kishimpo, justement. Alors, cette dame s'exprime en Swahili, si on peut l'écouter, peut-être la traduire après.
Sasa hivi haitoki. Tunachimbula njimu tu bia, tunatengeneza. Mai inaanza kutoka. Kushukisha mpompi chini. Hapa hii kusai kuyulu. Shuna unapasha tuna na mai. Kule kwa kukumai, juba sha kufakishi mpo. Si haitoki. Kama haitoki. Jomu na kama.
Donna, on vient d'entendre ce que cette dame vient de nous parler. Pour ceux qui ne comprennent pas le Swahili de Lubumbashi, est-ce que vous pouvez nous dire un mot par rapport à ça?
Tout à fait, Walter. La dame disait tout simplement, elle me montrait, elle dit, mais en face de moi là, Vous voyez les enfants en train de puiser, de prendre de l'eau dans un kishimpo. Et ici, où nous nous trouvons, nous, c'est-à-dire elle et moi, et je l'avais trouvé juste dans sa parcelle, en face de nous, il y avait un tuyau à même le sol, déjà coupé, bien sûr, mais l'eau ne coulait pas. Elle m'a dit, elle m'a montré là-bas, elle dit, vous voyez ici, nous avons un tuyau, nous avons un conduit de la régie des eaux, et qui est sec, l'eau ne coule pas. La solution, c'est qu'il faut creuser ici. Quand vous creusez, et l'eau va couler. Donc, elle était en train de justifier la faiblesse de la pression qui fait que l'eau ne coule pas tant qu'elle n'en a pas creusé. Voilà l'explication du Kishimpo d'après elle.
Mais Donna, on est bien d'accord, c'est un acte d'incivisme pur et simple, parce que lorsqu'on a creusé un Kishimpo en amont, en tout cas ceux qui sont en aval, ne trouvent pas de l'eau. C'est clair et net. Est-ce que vous avez noté d'autres conséquences par rapport à ce phénomène?
Elles sont nombreuses, Walter. Les conséquences sont nombreuses, puisqu'il y a un préjudice de part et d'autre. Quand j'ai dit de part et d'autre, c'est-à-dire d'abord de la part de la régie des eaux qui fournit l'eau, et puis de la part de la population elle-même. Alors, pour la régie des eaux, le manque à gagner est important, car il est impossible de contrôler la quantité d'eau perdue dans ces kishimpo, étant donné que la fuite est énorme sur les réseaux. Et donc la régie des eaux doit se contenter des factures forfaitaires. Et il est impossible pour la société d'être très dure envers les clients qui sont insolvables, car comme on dit, ventre affamé n'a point d'oreille. Quand la population a besoin d'eau, et tant qu'elle va continuer à avoir besoin d'eau, elle cassera toujours les tuyaux et se ravitaillera.
Mais
et,
Donna...
et voici, naturellement, c'est sans se soucier de payer.
Mais oui, Donna.
Pour la population, le préjudice est surtout lié à la qualité de l'eau même qui est consommée et la qualité d'eau qui est obtenue dans les kishimpo. Sur le plan hygiénique, il s'agit bien entendu d'une eau non potable parce que la pression étant faible, et vous comprenez que les microbes et les saletés peuvent facilement s'introduire dans les conduits, dans le tuyau, et se répandre vers d'autres clients du réseau. Et ceci est la cause, naturellement, des fréquentes maladies d'origine hydrique dont souffre de temps en temps la population ici à Lubumbashi-Walter.
Est-ce que cette population est consciente de ces dangers?
Bien entendu, Walter, la population est tout à fait consciente de ces dangers. C'est ainsi que certains se procurent du chlore. Le chlore, c'est un produit qu'on trouve facilement sur le marché ici. Alors, certains se procurent ce chlore qu'ils versent dans l'eau avant de la consommer. Et on peut ici, moi je pense qu'on peut justement se poser la question sur la quantité, sur... la question aussi sur la qualité de ces chlores, parce que il est vendu en plein air au marché de la commune Kenya, et ceux qui manquent les moyens de se produire ce chlore-là, eh ben, ils sont obligés de consommer tel quel l'eau qu'ils puisent du Kishimpo et qui est impropre. J'ai posé la question à la même dame de tout à l'heure, à la Kenya, pour recueillir son avis. Je vous propose son témoignage à propos de la qualité de l'eau qu'elle consomme ou qu'ils consomment les gens de la Kenya à partir du Kishimpo. On peut l'écouter, cette dame.
Tukune shota paka vile baba. Tutenda kutafuta mai wapi? Tukune shota mai paka vile ya buchafu. Tukuna kunya paka vile ule kona klora na weka amu. Ula nanane kunya paka vile. Tukuna oza kunsoku. Kanchupa kiola 100 francs. Juu saa hivishi, mubido ya nini? Ya velit, tunekaka monani. Kale kamfiniko kamoi.
Et voilà, Donna, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonne journée à Lubumbashi. On va continuer à rester sur le sujet, évidemment avec bien d'autres explications et d'autres explications par rapport à ces phénomènes et surtout comment en sortir. Au revoir.
Pourquoi est-ce que dans le temps, la population ne coupe pas des robinets? Dans le temps colonial, la population ne coupe pas de l'eau, ne coupe pas les tuyaux. Maintenant, quand ils coupent des tuyaux, c'est parce qu'il y a une raison. La pression qui manque. Écoutez, cette eau que vous voyez, pendant le temps colonial, on payait 2 mois après, combien, peut-être 5, 10 francs. Hein? Bon, tout le monde était dans la mesure de payer. Maintenant que la régie doit instaurer le système de forfait, même s'il n'y a pas d'eau, à la fin du mois, forfait, 3 000, 4 000. Vous comprenez? Alors, vous voyez que les gens maintenant sont dans l'impossibilité de s'acquitter.
Voilà, dans tout ça, il faut que la régie des eaux puisse trouver solution à augmenter la pression, à rendre la pression d'eau au robinet une pression normale pour éviter ces genres de choses. C'est dû aux populations, évidemment, qui doivent pas poser des actes de vandalisme sur les tuyauteries, la régie des eaux. On le saura tout à l'heure avec quelques-uns de nos interlocuteurs. Au Cap-Action, lorsqu'on dit Kishimpo, il s'agit à Lubumbashi de ces puits artificiels qui sont créés de façon incivique dessous des canalisations de la régie des eaux pour satisfaire aux besoins d'une population qui estime que la pression d'eau au robinet est trop faible. Pour commenter ce sujet, nous recevons en direct depuis Lubumbashi Monsieur Tianga Pembelanga. Bonjour.
Oui.
Vous êtes... Oui, vous êtes le chef de division technique à la régie des eaux Lubumbashi. Pourquoi il y a ce phénomène Kishimpo à Lubumbashi? Parce que les habitants estiment que la pression d'eau est faible au niveau des robinets à Lubumbashi, surtout ceux qui sont approvisionnés à partir de Kalukuluku. Pourquoi la pression est-elle faible au niveau de la régie des eaux?
Oui, en fait, les phénomènes Kishimpo, ce n'est pas à Kalukuluku, mais c'est plutôt au niveau de la commune de Kenya. La pression est faible, vous savez, ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu des investissements et les équipements sont déjà devenus vétustes. C'est ainsi qu'à certains points, c'est dû à la pression qui est faible, mais à d'autres points aussi, c'est l'acte de vandalisme. Quand les gens ne payent pas, et même quand on coupe, à ce moment-là, ils creusent même jusqu'au niveau de la conduite. Mais il n'y a pas seulement problème de pression. Effectivement, il y a ces problèmes de pression pour certains points et d'autres, ce sont des actes de vandalisme.
Oui, parlons d'abord.
En faisant cela, ça aggrave encore la pression, parce que quand il casse comme ça, ça coupe, disons, ça diminue la pression dans la conduite et les autres qui sont en aval ne reçoivent plus l'eau.
Ok, d'accord. On comprend qu'il y a deux problèmes, la faible pression et puis les actes de vandalisme. Parlons-en séparément. La Kenya, pour parler de la Kenya par exemple, où est le point de captage de l'eau qui est desservie à la Kenya?
Permettez ici, je ne vais pas bien parce qu'il y a trop de bruit.
Mais oui, les gens devraient vous laisser un peu tranquille autour de vous dans votre bureau. Je voudrais savoir, le point de captage d'eau pour approvisionner vos abonnés de la Kenya, se trouve où dans le Katanga?
Oui, le point de captage, c'est Kimilolode, c'est vers la route de Kasumbesa. Là, nous avons des stations, disons, dans la même enceinte, nous avons deux stations, la haute pression que nous appelons Kimilolo 1 et la basse pression Kimilolo 2 qui alimente une partie de Kenya Katuba.
Mais oui, avant que les actes de vandalisme commencent à se poser, parce que selon nos enquêtes, les premiers actes de vandalisme étaient survenus du fait de la faible pression, comment, au niveau de la régie des eaux, pouvez-vous expliquer qu'il y avait faible pression au niveau de l'approvisionnement en eau?
Oui, d'abord, vous voyez, au niveau des pompages, les pompes, ce qui était prévu, ça ne parvient plus avec l'élargissement du réseau. Alors, il y a eu faible pression parce qu'il était prévu que cette station alimente l'eau jusqu'au niveau du réservoir Tabakongo, qui a gravitement pour être alimenté, mais la station ne parvient plus à faire arriver l'eau au niveau du réservoir Tabakongo.
Comment pouvez-vous corriger ça?
Pardon?
Comment pouvez-vous corriger ça au niveau de la régie des eaux?
Pour corriger ça, bon, de toutes les façons, il y a un grand projet dans l'ensemble de Lubumbashi, mais ceux-ci sont déjà terminés. C'est, bon, on attend encore les financements. Mais malgré ça, on a fait des mini-projets, il y a des micro-projets. Nous pensons que du côté de Tabakongo, il y a certaines nappes qu'on a trouvées du côté Kamasaka, de l'antenne FNC. Si on ferait de ce côté-là, on alimente les réservoirs et réhabiliter le réseau de Kenya.
Et là, ça pourrait intervenir d'ici combien de temps, combien de semaines, combien de mois peut-être?
Bon, l'intervention, je ne saurais pas vous donner le temps parce que cela dépend des financements.
Alors, voyons l'autre aspect maintenant. Il y a le fait que, comme les gens font les bishimpo par endroit, évidemment, ça diminue systématiquement la quantité d'eau qui circule dans les tuyauteries. On en connaît les problèmes. C'était pour certaines personnes question de répondre à leurs besoins en eau, mais aussi ça devient un problème d'un civisme pur et simple. Comment vous, au niveau de la régie des eaux, pensez-vous pouvoir mettre fin au phénomène de bishimpo?
Oui, nous avons déjà même tenté, nous avions pu commencer à remplacer, mais malheureusement, c'était tout un quartier. Des nuits après, on est venu tout arracher, ce qu'on avait placé, sans n'ayant pris les actions. C'est ainsi que nous avions même sensibilisé, nous avions informé la mairie qui a dit qu'il va s'impliquer en instaurant les équipes sur place pour sensibiliser la population.
Pourquoi est-ce que vous ne pouviez pas, vous, directement, Régie des Eaux, parler avec vos abonnés pour qu'ils comprennent qu'en creusant comme ça, il faut rentrer des microbes dans toute la conduite?
Effectivement, nous le faisons. On sensibilise les gens, mais bon, les gens, ils font ce qu'ils font. Hein.
Et en vous entendant parler, c'est comme si vous baissez les bras et que vous dites, bon, ils font ce qu'ils font.
Non, on ne baisse pas le bras, parce que nous, on a, d'abord, nous avons éliminé, parce qu'on devait éliminer petit à petit en augmentant aussi la pression dans les conduites. Mais ils sont venus voler, c'est ainsi que nous sommes repliés, effectivement. La mairie nous avait dit non, si vous y allez de vous-même, peut-être que la population ne va pas respecter comme tel. C'est ainsi que nous sommes repliés sur la mairie qui sensibilise. De notre côté, nous sensibilisons, du côté de la mairie aussi, là, sensibiliser les bourgmestres qui vont aussi aller tout sensibiliser les chefs de quartier et pour créer les comités de l'eau.
Lorsque un habitant n'a pas de l'eau dans son robinet, il ne voit pas le chef de quartier, il ne voit pas le maire de la commune, le bourgmestre, le maire de la ville, il voit seulement la régie des eaux. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est à vous que revient la responsabilité de parler directement à vos abonnés au lieu de passer par des autorités interposées?
Oui, nous le faisons, mais dans l'entretemps, il y a l'autorité locale qui doit aussi nous aider, parce que vous savez que ils sont dirigés, la population est dirigée par ces autorités-là. C'est ainsi que nous faisons parvenir nos défenses et les explications, nous expliquons, nous sensibilisons. Dans l'entretemps, les chefs de quartier, les bourgmestres aussi, sensibilisent aussi les gens de leur côté pour que c'est une société publique. Cette eau que nous produisons, ce n'est pas l'eau. Et ce sont seulement les agents régis des eaux qui consomment ça. Nous produisons pour la population. Il faudrait que la population sauvegarde ses patrimoines.
Il y a des réactions qui arrivent de Lubumbashi. Comment réagissez-vous à ça?
Oui, c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a un programme. Il y a un programme dans le milieu qui est, donc Lubumbashi est retenu. C'est un projet qui demande des gros financements. C'est ainsi que je vous ai parlé des micro-projets. On ne doit pas attendre ces projets qui demandent à peu près 36 millions de dollars qu'il faut, mais c'est ainsi que nous faisons des micro-projets pour éliminer ces phénomènes petit à petit.
Une autre réaction, c'est Dominique Kanongo qui explique en disant que les Kishimpo est une solution que la population a trouvée pour avoir de l'eau. Il ajoute que les femmes se réveillent la nuit pour aller chercher de l'eau dans des quartiers assez éloignés. Il constate que Lubumbashi est une ville qui chaque jour s'agrandit et à chaque fois qu'il y a de nouveaux lotissements, vous, la régie des eaux et le bureau de cadastre, vous devriez vous arranger pour fournir de l'eau aux gens qui viennent s'installer et faire de nouveaux plans d'adduction d'eau.
Oui, en fait, c'est ce que vous dites là. Normalement, c'est ce qui devait se faire, mais quand on est en train d'urbaniser la ville, mais la régie des eaux n'est pas contactée. Bon, et ils vont jusqu'à, si vous voyez quelqu'un qui habite les quartiers périphériques, qui vient nous contacter pour qu'on lui donne déjà de l'eau, alors que nous, nos tuyaux ne sont même pas arrivés là-bas, et le centre, disons, des quartiers n'est pas urbanisé, mais vous voyez que ça pose trop de problèmes.
Mais bon, puisque vous êtes vous-même habitant à Lubumbashi, vous connaissez le problème, est-ce que lorsqu'il y a de nouveaux lotissements, vous ne pouvez pas exiger qu'il y ait un travail conjoint entre vous, la Régie des Eaux, j'ajoute même la SNEL qui n'est pas là, pour que ces populations nouvelles, dans les nouveaux quartiers, y aient toutes ces infrastructures?
Oui, tout ça, ça y est, mais c'est, je vous ai dit qu'il y a un projet, un grand projet de réhabilitation des infrastructures de production et de distribution. Et tout cela, ça demande des financements. Même si on nous contactait aujourd'hui, on dit ok, il faut maintenant qu'il y ait financement pour investir.
Mais alors, en attendant que tous ces projets soient réalisés, et qu'est-ce qu'il faut trouver comme solution face au phénomène Kishimpo?
Ce phénomène Kishimpo, il s'est concentré dans certains endroits. C'est ça, c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a un mini-projet, il y a des micro-projets que nous avons faits. Il y a d'abord, ça se prononce surtout au niveau de la commune Kenya. C'est ainsi que nous avons fait un état de besoin de façon à essayer d'éradier ce phénomène d'abord dans là où il y a beaucoup de Kishimpo et qui casse aussi la pression. En faisant ça, ça va améliorer aussi la pression au niveau du réseau.
Il y a un auditeur de Goma qui voudrait savoir, par curiosité, s'il s'appelle Victorio Mandé, à combien s'élève la facture que la Régie des Eaux, Lubumbashi, envoie à ces populations qui souffrent du rationnement d'eau?
Comment on peut envoyer une facture à quelqu'un qui n'a pas d'eau?
Nous avons entendu des témoignages, des factures forfaitaires arrivent alors qu'ils n'ont pas eu suffisamment d'eau pendant le mois.
Non, bah écoutez, d'ailleurs, si vous renseignez bien, les gens qui connaissent Lubumbashi, qui sont déjà arrivés même ici à Kenya, s'ils arrivent à Kenya, c'est là où il y a beaucoup de gaspillage. Il y a beaucoup de gaspillage, ce qui fait même que l'eau n'arrive. Il y a même certains abonnés qui enlèvent carrément les vannes de robinet et que l'eau coule à tout moment. Et si vous voyez ce qu'on les facture, ça ne correspond pas avec les débits qui coulent à l'air robinet.
Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de vos projets.
Ok, je vous en prie beaucoup et nous faisons toujours des efforts pour que les gens aient de l'eau.
Merci. Mais bon, on va quitter Kinshasa parce qu'il y a des regards assez particuliers par là pour aller dans la province de l'Équateur. Cette province a connu une recrudescence de la maladie du sommeil autour des années 1996. Plusieurs localités de cette province étaient touchées par cette maladie. C'est notamment le cas de Bututu, une localité située à près de 91 km au sud ouest de la ville de Guémena. Là-bas, de nombreux habitants souffraient de cette maladie. À ce jour, elle est de plus en plus maîtrisée grâce aux efforts des luttes entrepris dans cette partie du pays par, évidemment, les agences concernées. Alors, Marcel Gombo qui est rentré avant-hier soir, qui a fait sa première entrée en Inde hier, sur sa route vers le secteur de Dongo, il s'est arrêté à Bututu. Marcel, bonjour.
Bonjour Walter.
Alors, est-ce qu'on peut savoir comment la lutte contre la trypanosomiase, disons la maladie du sommeil, est menée dans cette localité Bututu?
Il y a des unités mobiles, Walter, qui sillonnent le village à risque, parmi lesquelles figure la localité de Bututu. Cette localité, selon le chef du village, compte environ 800 habitants. Et pendant longtemps, cette localité fut un véritable foyer de la maladie du sommeil qu'on appelle trypanosomiase humaine africaine. Grâce au dépistage effectué par ces équipes mobiles, les personnes atteintes de cette maladie sont conduites dans un centre de santé pour être soignées. Et cela permet de réduire sa propagation au sein de la population.
Mais est-ce que les unités mobiles ont le moyen de vérifier ou de s'assurer si la population locale collabore par rapport aux messages qui leur sont transmis?
Bien évidemment, parce que le dépistage passe par des campagnes de sensibilisation. Pour cela, les concours des chefs de village ou autres chefs de groupement est plus qu'important. Pour en savoir davantage sur le travail de ces unités mobiles, je vous propose de suivre Naïlé Sigotier, technicien sanitaire.
Ce dépistage est basé sur la population paysanne, examiner toute personne qui se trouve dans les villages. Et ce dépistage se fait actuellement localité par localité. Alors ce qui se passe ici, c'est la sensibilisation, surtout qui est le premier point, la sensibilisation sur la trypanosomiase, la population doit comprendre qu'est-ce qui se passe. La population doit comprendre aussi les signes probants de la maladie et surtout les moyens de lutte efficaces. Nous sommes surtout en contact avec les chefs de groupement, les chefs de localité et les animateurs, y compris les infirmiers titulaires de l'aire de santé. Dans les années 96 à 2003, il y avait des cas échéants. On dépistait soit de 50 à 100 cas par an. Mais actuellement, la prévalence diminue si bien que nous participons déjà ou bien nous assistons déjà à un cas sur ça à examiner. Nous sommes assistés par des donateurs ou des intervenants de Belgique, communément appelés Mémis à Belgique.
Voilà, ces unités mobiles font d'une localité à une autre des marches, des inspections, si vous voulez, ce qui suppose qu'il faut des moyens, et car il faut que ces techniciens puissent avoir le matériel pour le dépistage, sans compter les moyens de déplacement. Est-ce que, à part Mémis à que monsieur vient de citer tout à l'heure, il y a d'autres ONG qui parrainent cette action?
Voilà, il y a Mémis à Belgique qui depuis près d'une décennie est présente dans la lutte contre la trypanosomiase dans cette province de l'Équateur. Mais Mémis à Belgique travaille aussi en partenariat avec les CDI Bouamanda. Mm-hmm. Et nous avons rencontré les coordonnateurs provinciaux du bureau Mémis à Belgique à l'Équateur. On écoute le docteur Gaspard Niemowala.
Le programme a débuté avec le financement Mémis à Belgique, gouvernement belge et CDI Bouamanda en 1996. À ce moment-là, la maladie était très importante. Donc le chiffre, c'était donc autour de 4%, 4-6%. Pour cette année, donc pour l'année passée jusqu'aux activités de l'année passée 2004, nous sommes en dessous de zéro. Nous sommes à 0,01%. C'est-à-dire qu'on a l'unité mobile passe, il y a des axes chaque année. Donc c'est un cycle d'une année. Donc il parcourt des villages chaque année, des villages à risque, là où on a trouvé au moins un cas. Alors si on a trouvé un cas, s'il y a une maladie dans la région, c'est prévu qu'il passe au moins 3 ans pour que, au moins 5 ans. Le village est considéré comme quoi, sorti des risques si dans l'intervalle de 2-3 ans on ne trouve pas de cas, alors ce village-là est écarté. Donc le cycle est de une année, c'est-à-dire que les unités mobiles passent par le village chaque année.
Docteur Gaspard Niemowala, qui est médecin, qui intervient dans la lutte contre la trypanosomiase, responsable du projet Mémissa dans cette partie de la République démocratique du Congo, au niveau de l'Équateur, il faut le dire. Et ce qu'on comprend, c'est que les unités mobiles passent une fois chaque année, et au bout de 3 ans, si aucun cas n'a été enregistré, le village est considéré comme hors de danger. S'il faut tenir compte du fait que de 96 à 2004, le pourcentage des cas de trypanosomiase ou maladie du sommeil est passé de 6 à 0,1%. On peut dire bravo et que c'est vraiment du travail énorme qui a été réalisé sur le terrain. Mais par rapport à tout ça, les bénéficiaires, les premiers bénéficiaires de toutes ces interventions et les premières victimes, malheureusement, de la maladie du sommeil, ce sont les habitants. Parce que vous les avez peut-être rencontrés quelques-uns à Boututu, rappelons que là, nous sommes dans la province de l'Équateur, 91 km sud-est de Guémena. Est-ce que vous leur avez posé la question de savoir comment ils trouvent l'intervention de ces ONG, Marcel?
Il s'estime heureux de voir cette action aboutir à des résultats aussi remarquables. Rien ne peut leur faire autant plaisir si ce n'est que cette maladie soit de plus en plus maîtrisée pendant des années, suivant le chef du village sanglier Bina Modeste.
Vraiment, pendant les camarades de puissance, on dingue les alliés Awa et Pananga, Nambo Kananga Boututu, Namone Liboso. Pas si on a zaki, mais si quoi yon dengue babani ko salape yango si quoi yon amoni si quoi malade yon a zo meka kousi la penda nambo kananga. Tozo kouse pela nango mingi, pour vraiment malade yon a prea eboma ki biso mingi. Wana to eba kite men si quoi yon tango bakomi si quoi yon a vraiment to monite en tout cas malade yango et meki kousi la pona bango. So ki tembe vraiment mbo kayo sombe to koufa. Kolo bate en tout cas monsala yon tika bako ba penango pote en tout cas malade yango ici la.
Monsieur Bina Modeste, sanglier, le chef de localité de Boututu, mais pourquoi sanglier? Comment il est ce monsieur, ce chef?
J'ai pas cherché à demander à ce monsieur pourquoi il s'appelle sanglier, mais...
à le regarder, comment il est?
Bon, sur le plan morphologique, apparemment c'est comme on dit, Ngambé Mobali, c'est un monsieur bien en chair.
Fort et
bien en chair.
Un Colbert, presque?
Disons oui.
Moins que Colbert.
Non, moins que Colbert quand même. Mais, hein. Mais, assez, non, mais il est bien en chair.
Assez
et puis,
costaud.
Assez costaud, c'est ça.
Donc lui n'a pas été piqué par la redoutable moustique. Il reconnaît d'ailleurs que l'intervention des ONG a été salutaire, parce qu'il faut dire que cette maladie du sommeil a des conséquences sur le point de vue économique, développement, travail, parce qu'on est tout le temps en sommeil, on ne peut plus travailler, on ne peut plus aller dans les champs, et puisqu'il lui est encore fort, donc hors des dangers.
Il a été épargné.
On va en savoir un peu plus tout à l'heure avec un spécialiste de la question. Merci Marcel. On va continuer à relire vos notes des voyages. Prochainement, ça sera quoi?
Prochainement, Walter, on va revenir sur, avec des sons maintenant, sur les conditions de réfugiés toujours à Betoumer pour tous ces réfugiés qui se trouvent le long du fleuve, parce qu'il y a beaucoup de sites de réfugiés le long du fleuve. On va parler de leurs conditions de vie.
À suivre donc, rendez-vous sur Radio Okapi. Okapi Action, ça sera mardi prochain.
Exactement.
Et évidemment.
De banana, ah oui.
Voilà, nous avons notre invité en ligne maintenant. Bonjour docteur.
Allô.
Oui, nous parlons de la lutte contre la maladie du sommeil. Notamment, notre collègue est passé par Boutoutou, 91 km sud-ouest de Guémena. On a noté quand même une évolution sensible et assez intéressante par rapport à ce qui se passe par là, de 6% presque à 0,1% des cas. C'est un grand travail. Et quelles sont les stratégies que vous menez sur terrain pour pouvoir atteindre un résultat aussi positif?
Ok, merci monsieur le journaliste. C'est vrai, l'Équateur Nord, c'est parmi les coins du pays qui avait un problème sérieux de la maladie de sommeil, mais je vous rassure que depuis quelques années, c'est parmi l'une des provinces concernées où on a lutté efficacement contre la maladie de sommeil. En titre d'exemple, vers l'année 99, on avait diagnostiqué durant l'année 14 000 nouveaux cas, mais en 2003, on a pu diagnostiquer que 1597 nouveaux cas. Eh bien, cela est lié essentiellement aux différents partenaires qui se sont investis sur terrain, ainsi que le programme de lutte contre la maladie du sommeil. Eh bien, il y a aussi la population qui, suite à ce qu'ils ont connu, j'ai suivi le chef de village, tout ce qu'ils ont connu comme décès, eh bien, les gens ont pris conscience et il y a eu un bon taux de participation aux activités des unités mobiles. Et cela étant, moi, je pense que à l'heure qu'il est, nous avons dû multiplier les efforts pour avoir sur terrain, à l'Équateur Nord, 14 unités mobiles et 21 centres de traitement, diagnostic et contrôle. Et à cela aussi, il faut bien ajouter l'impact de l'Église, donc les deux églises essentiellement catholiques et protestantes, qui ont donné un appui très très important, surtout pour la sensibilisation de la population. Et il y a même des sœurs, par exemple, qui ont cédé des bâtiments pour qu'on puisse installer le CDTC. Et cela, c'est vrai, il faut aussi reconnaître l'appui du Royaume de Belgique qui par son appui à la lutte contre la maladie du sommeil est en train de soutenir le fonctionnement des unités mobiles, ainsi que la DGCD qui la DGCD Belgique qui appuie le consortium MEMISA CDI Boamanda. Donc en bref, c'est ce que je peux vous dire en rapport avec la lutte que nous avons organisée dans l'Équateur Nord.
Mais il y a aussi cette autre localité, notamment Isangi, qui est touchée fortement par la trypanosomiase. Là-bas, les résultats ne sont pas aussi meilleurs qu'à Boutoutou.
Vous dites, vous êtes où, s'il vous plaît?
La localité de Isangi, autour de Isangi, ce n'est pas aussi brillant comme résultat que ce que vous avez fait dans le nord équateur.
Ok. La localité d'Isangi, dans la province orientale, c'est vrai, c'est parmi les foyers en éveil. C'est récemment que nous avons découvert ce foyer si important qui est parmi les grands foyers que nous avons à l'instant. Eh bien, nous avons fait la prospection et le programme a décidé pour qu'on puisse installer les unités mobiles. Toujours avec nos partenaires, nous avions fait la plaidoyerie. Eh bien, il y a Médecins Sans Frontières Belgique qui a dû trouver des fonds du gouvernement danois. Maintenant, les choses sont en œuvre. Donc, je vous ai dit, pour l'Équateur Nord, on a commencé la lutte depuis 1999. La lutte contre la maladie de sommeil, c'est toujours une lutte de longue haleine. On a commencé depuis 1998, mais maintenant, nous avons les résultats. Mais pour Isangi, c'est récemment, c'est d'ailleurs, je dirais, l'année passée que la lutte vient de commencer, précisément au mois de novembre. Donc, pour attendre les résultats, ce n'est pas dans une année, il faudrait peut-être espérer dans 2 ou 3 ans.
Je suis passé par Isangi au mois de mai de l'année passée. J'ai pu observer certains malades qui avaient des troubles au niveau des nerfs, comme séquelles de mauvais traitement de cela. Si vous n'intervenez pas assez vite, on risquerait de connaître beaucoup de personnes qui seraient frappées par une espèce de folie.
Ok, d'accord. Le problème, c'est vrai, vous avez dit les malades avec des mains qui tremblent, ça c'est vrai. Je vous dirais que la maladie de sommeil est principalement une maladie neurologique. Donc, la maladie de sommeil dans un stade très très avancé attaque le système nerveux. Donc, il n'est pas étonnant de voir les malades au deuxième stade avec les signes neurologiques. Mais ce qui est bon, au moins, on a découvert ce foyer et à l'instant, je vous rassure que l'équipe est déjà sur terrain pour le dépistage actif depuis le mois de novembre.
Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres foyers de trypanosomiase que vous avez détectés à travers la RDC, à part le Nord-Équateur et notamment cette partie de Isangi?
Ok, d'accord. La maladie de sommeil sur les 11 provinces que compte le pays, il y a 9 qui sont endémiques à la maladie de sommeil. Il y a d'abord le Bas-Congo. Et dans le Bas-Congo, je vous dirais que la situation semble être maîtrisée comme à l'Équateur Nord. Il y a la maladie de sommeil dans la province de Bandundu qui reste encore une province hyper endémique au même titre que la province de Kasaï Oriental, les provinces de Kasaï Oriental et Occidental. Nous avons la province de Maniema qui est aussi endémique et une partie de la province de Katanga vers Kalemi. Nous avons la province de l'Équateur et pourquoi pas la province aussi de Kinshasa qui a un problème de maladie de sommeil.
Donc on comprend que la lutte est encore ardue. Docteur Claude Cessé, je rappelle que vous êtes adjoint à la direction du programme national de lutte contre la trypanosomiase. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions.
Merci, monsieur le journaliste.
Au Capi-Action, en seconde partie, nous commençons par la chronique élection. C'est facile à comprendre. Franklin Moliba-Cessé et Thérèse Kankou nous rappellent les béabas des élections, les concepts de base. Suivez.
Les élections, c'est facile à comprendre. Avec Thérèse Kankou et Franklin Moliba-Cessé.
Que toutes les élections soient libres et démocratiques. Quand on monte au casse-sop et qu'à cela monte au casse-solele, quand on monte à quoi mon butuko, que peut-être on se tourne à faire quelque rouge. Non, cette fois-ci, quand on monte à la libre et indépendant.
Mais la salle sans élection transparente. Yo vend en beauté, ça me bête quand tout canam passe y aille, ça me passe mes loups. Mais tout que tambour la pamba qui s'amuse qu'elle veut. Mais toujours la coupona pour basé ça, mon cousin a bête peuple, bête maison.
Oui, son anglais, maison, le lutte bien. Montre un mot fouet quenda, ça n'a pas pour la montre à Zola, Kingan, Yovan obligé. Mon nom, son aquena, mon pona, Kingan, Kingan, mon vote, mon basse. Désordre, ve, tina date en bon métou, la yofoué longue.
Élection de Zola, il y a élection transparente. Do ba province union se peut participer bo yanda mouve bo ba région kakayo salama yanka yo salama permettre bete zo le même côté à est na Kindu Kivu kuna bo sa det sa bete nyoso élection do transparent et démocratique.
Nathalie Batunyoso zona tikopola maya ki za salima ya kuiza salima na kimpanza nyoso na mutindu ya bu démocratie pe na meso ya Batunyoso. Nathalie beto tubila bubu yai mambu yina nyoso
beto yantika na mazina yantete libre
ya fwana kutuba ntiteti kimponza ya kuponama kesalimina kana bandambu zole ya ntete ya kile yai ya batu kepona na ndambu zole ya kile bantu yai kikuiza baki kuza pona ya fona kutuba ntete ti kimponza kupona makisa liminaka na bandambu zole na ndambu ntete ya kele bantu kepona pe na ndambu zole ya kele yai ya bantu baki kuzapona.
Sam na bantu kepona kupona makele ya polele ntangu bantu kena kupona bantumu na bao na lutumu na bao mosi.
Ya sana tuba ti ya fona venge zabisa ntete ntete na nge kuzapona pe baku za tindave nge pona mutu kingandi to mutu ya nkaka.
Samu na bantu yae baki na kupona, kupona makine ya polele kana bao lenda tubila diambu ya kupona bao sika nyoso na ngemba nyoso.
Kuzabisa bangindu to kampanye, kesa liminaka na bantangu tibi mfuka ya tuadiso to ya politik, kena kutubila bangindu na yao ya kukuza tuadisia inti. Bangindo kutwadisa inti ya kele mukanda ya bimvuka ya ntwadusu to ya politik kesungisaka na yao mutindu ya kikuiza tomisina luzingu ya nkangu na ndambo ya Dibwala na ndambo ya Mbanza pe na kati ya inti.
Kana bantu ya kupona lenda tubila diambu ya kupona bao na ngemba ve na kati ya inti ya Mvimba ya zona tubati kupona mayai kele ya polele ve.
Tango ya inatali, betu luta na ina metadila kuponama kikuza salima na meso ya bantu nyoso. Kuponama kisalima na meso na bantu nyoso ya kele kuponama baki kubikaka na bantu mingi.
Ya ntete na ndamba bantu baki puna, ya kele bantu mwana bao ya ikena kubongisa disalu. Ya zone na ndamba bantu kena kupona, ya kele batanini tompe ba mwangisi nsanguti kele bantu mwa ya bantu na bisalu nyoso kena kusalama. Ya tatu na ndambu wa inza ya Mvimba, kisalu kena kusalama na mtadusu ya batanini ya inza.
Kukuba maina ya kuponama kisalima na meso ya bantu nyoso ya kisalimina kena bandambu tatu. Ya ntete ya kile na bantu kekuza pona. Ya zule ya kile na bantu baki kuza pona. Pe ina ya tatu ya kile nkangu ya inza.
Ya silika sa mti kuponama na mtini ya kidemokrasia ya kile ina kena kuzitisa mikano ya kidemokrasia. Nzo kande, kidemokrasia kena kukangama na ngindu ya kimpwanza mpe ya inswa.
Yao ina kana kupona mamekuza salimina na kimpwanza pe na meso ya bantu nyoso ya kikuza vwanda kaka kupona makisalima na mutindu ya demokrasi.
Bapo na kamubutu na makumi ivo na ivo na ndambu samu na kama mosi na mvula difunda mosi kama ivo makumi nana na zole.
Na ntango ya luyalu ya zole bakupona makuzaka salima tatu. Yantete ya kuzaka salima na mvula difunda mosi nkama ivwa makumi ntambwadi ya zole na difunda mosi nkama ivwa makumi ntambwadi na ntambwadi peyi na ntuka ya salimaka na difunda mosi nkama ivwa makumi nana na iya. Mutu ya evandaka bakuza pona ya evandaka kantwadisi ya iti ya ndimosi.
Kupona mayai vandaka ya polele ve mpe ya kidemokrasia ve.
Élection, c'est facile à comprendre, c'est tous les jours sur Radio Okapi après le flash de 10h. Nous aurons un invité tout à l'heure, Paul Sapou, qui ne comprend pas très bien le Kikongo. On va prendre une version d'une langue qu'il comprend très bien, ça lui permettra de réagir. Déjà, ça permet à nos auditeurs, locuteurs du Kikongo, de nous envoyer leurs questions au 081 890 68 à 90. Élection, c'est facile à comprendre.
Les élections, c'est facile à comprendre. Avec Thérèse Kankou et Franklin Moliba-Sissé.
L'élection est dans le bas. Changement est côté à la mboka. Botika na obiso mokoto pona mote mala biso to linga moto to lingiye.
Mais les élections, est synonyme de changement de régime. Nous avons besoin quand même de nouveaux dirigeants quand même.
L'élection, on a vu tout le monde qui a fait un signe à Goéba Mambo. L'élection n'est pas là. Ya sisi yemisa.
Yale wa makamina uluba.
Sipele ikona kwa kanyani.
Ah. Thérèse, qu'est-ce qu'il faut dire à cette maman du marché qui ne sait pas ce que c'est l'élection?
Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que l'élection est les moyens par lesquels un peuple désigne ses représentants.
Ainsi, la personne désignée se charge alors d'agir au nom et à la place de ceux qui l'ont choisi, de décider en leur nom des affaires publiques.
Les affaires publiques, ce sont celles qui concernent tout le monde dans un village, dans une ville, dans une province ou dans un pays. Ainsi, l'on distingue les élections locales, provinciales et nationales.
Au niveau local et provincial, on choisit par exemple le bourgmestre et conseillers municipaux, le gouverneur et les conseillers provinciaux. Le bourgmestre dirige la commune, les conseillers municipaux prennent des décisions pour les affaires communales. Le gouverneur dirige la province, les conseillers provinciaux décident au nom du peuple des affaires régionales.
Au niveau national, on choisit les présidents de la République, les députés ou même les sénateurs.
Le président de la République dirige tout le pays. Les députés et les sénateurs votent les lois et contrôlent le gouvernement au nom du peuple.
Les élections des représentants des peuples peuvent être soit directes ou indirectes.
Elle est directe lorsque le peuple choisit ses représentants sans intermédiaire. Elle est indirecte lorsque les conseillers municipaux, provinciaux, les députés ou les sénateurs votent à la place du peuple.
Ceux qui votent, on les appelle les électeurs.
En RDC, l'organisation des élections marquera la fin de la transition.
La transition, c'est cette longue période qui a duré plus de 14 ans. Elle a commencé le 24 avril 1990.
Ici au Congo, les élections n'ont pas eu lieu. À l'époque du Zaïre, de Mobutu, c'était l'obligation. On nous oblige de voter toujours Mobutu.
Namogo, bon, depuis 60, hein, depuis 60, il y a eu l'élection Salimaga. Mais depuis là, de 60 jusqu'à présent, il y a eu l'élection pendant 65 ans Namogo.
Beaucoup de gens, comme ceux qu'on a rencontrés dans la rue, ne savent pas s'il y a eu des élections démocratiques en RDC. Il faut dire pourtant que les élections futures seront les deuxièmes élections démocratiques après 40 ans.
Les premières élections démocratiques ont eu lieu en RDC en mai 1960. Ces élections étaient à tous les niveaux, local, provincial et national.
Et voilà, on a commencé donc par ce premier thème, juste pour aborder les concepts clés de ce qu'on cherchait à voir. On dit, nous allons aux élections, il faudra que ces élections soient démocratiques, libres et transparentes. Pour commenter cela, nous attendons vos points de vue, chers auditeurs, au 081 890 68 90 ou bien à action@radiocapi.net. Et en studio, en direct, nous avons M. Paul Sapou. Bonjour.
Bonjour.
Vous, les élections, c'est votre dada, c'est votre vécu quotidien. Vous êtes activiste dans ce domaine-là. Alors, un commentaire par rapport à l'élément que vous venez de suivre.
Très bien. On sent qu'il y a une compréhension, une explication que la population essaie de donner au concept, au mot, si vous voulez, élection. Mais là, il va sans dire qu'il faut encore beaucoup de travail d'éducation civique électorale pour replacer le contexte dans lequel ces élections vont se passer. Alors là, j'ai perçu une définition, si vous voulez, partielle des élections sur le plan de ses fonctions, de leurs fonctions plutôt classiques, de leurs fonctions spécifiques qui sont liées au contexte dans lequel nous nous trouvons. Mmh. Et là, de façon classique, j'ai compris qu'il faudrait enseigner à notre peuple qu'il s'agit des élections qui ramènent, si vous voulez, le souverain primaire au devant de la scène.
C'est qui le souverain primaire?
C'est-à-dire
le
peuple.
Tout le monde s'explique ici.
Exact, le peuple. Hein, le peuple, oui. Le plus grand, la majorité, c'est lui, celui-là même qui mandate. Au moment où les électeurs votent, au moment où le peuple vote, il mandate, il élit des personnes qui doivent gérer pendant un temps donné la vie sociale, politique, économique au quotidien pendant un laps de temps donné, c'est-à-dire le mandat. Alors, ce pouvoir de conférer à un moment donné fait appel à la souveraineté de ce peuple-là et qui est géré indirectement, si vous voulez, directement au quotidien, par les élus. Alors, c'est un moment, les élections, un moment d'exprimer cette souveraineté du plus grand nombre, du peuple. C'est également un moment où pratiquement on confie à chaque fils et fille majeure son rôle, si vous voulez, son droit de gérer sur le plan civil et politique la nation. Alors, les élections permettent également d'assurer le contrat social entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Mmh. Les élections permettent également de s'assurer que voilà, nous avons fait le choix d'un projet de société et que défendent les candidats et les partis politiques. Donc c'est un moment très politique et qui demande l'engagement sociopolitique de chaque fils et fille majeure de la nation. Alors, il y a eu aussi, j'ai perçu, des tentatives d'explication par rapport à la fonction que doivent revêtir les élections auxquelles nous nous attendons, des élections du changement, changement de la classe politique, changement de régime politique à travers le référendum constitutionnel, changement également, si vous voulez, des systèmes de gestion de ce pays à travers les institutions que nous aurons à voter à travers la constitution qui nous sera soumise lors du référendum. Changement même des comportements, etc. Puisque là, on entre dans ce qu'on pourrait appeler la culture de l'excellence et non pas la culture de la violence, prendre les armes pour accéder au pouvoir, mais plutôt se battre à travers la compétition, les idées, la compétition électorale. Changement pour pouvoir amorcer, si vous voulez, un début de solution, un début d'harmonisation, si vous voulez, de normalisation de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Voilà. Là, c'est une fonction spécifique que la population veut donner à ces élections que nous attendons.
Monsieur Poissapou, ça c'était pour les commentaires par rapport à l'élément. Il faut dire que depuis cette semaine, Radio Okapi, le magazine Okapi Action, fait tous les jours un sujet, prend un concept, un thème à expliquer parce que tout le monde veut y aller. Est-ce que vous avez déjà voté?
Bon, j'ai essayé de voter.
C'était en quelle année?
C'est pratiquement vers les années 87.
Pourquoi dites-vous j'ai essayé de voter?
Puisque on ne m'avait pas du tout expliqué l'importance de ce geste-là que je posais en ce moment-là. Mm-hmm. Et on était emballé dans, si vous voulez, dans un civisme qui n'en était pas. Du parti unique.
Mais parler d'une propagande.
D'une propagande, je vais dire. Alors, à partir de ce moment-là, on ne nous donnait pas le sens vrai du mot élection. C'était une obligation. Il faut aller voter, puisque si vous ne votez pas, vous perdez votre emploi, vous perdez votre place au marché, etc. Et bon, c'était comme une obligation devant un État policier. Et là, au regard de ce que nous avons comme élément de connaissance par rapport aux élections libres, transparentes et démocratiques, je me suis dit que j'ai essayé de poser un geste qui n'en était pas du tout un geste posé dans la liberté, dans la légalité, dans un environnement démocratique. Donc c'était un semblant d'élection.
Monsieur Paul Sapou, est-ce qu'on peut être obligé de voter?
Je pense que cela relève, si vous voulez, de l'obligation civique de tout un chacun.
Mais obligé par une tierce personne ou par soi-même?
Par soi-même, lorsque l'engagement sociopolitique que j'ai me pousse à exercer, si vous voulez, la souveraineté que je dispose et qui fait partie de la souveraineté du peuple. À partir de ce moment-là, je participe à la gestion de mon pays au moment où je vote de façon directe pour permettre à ce que mon vote puisse accorder un mandat, donner un mandat aux gérants et aux gestionnaires qui pourront gérer pendant un temps le pays au quotidien à ma place. Donc c'est un devoir, c'est une obligation civique. Mais on peut aussi s'abstenir. Et on ne devra pas, par exemple, demander à l'État de pouvoir sévir ou bien punir les personnes qui n'ont pas voté et qui ne veulent pas voter pour des raisons
simples. C'est un libre exercice de ce droit,
de ses droits
civiques.
Voilà, civique.
Alors, une question de Kananga. Je vous laisse la découvrir, vous allez y répondre. Enoch, c'est Enoch qui me la pose. Mm-hmm. Est-ce que les femmes peuvent aussi voter et être votées? Nous voulons des précisions sur ça. Fin de citation. Enoch de Kananga.
Bien, les femmes sont des êtres humains. Elles ont ce qui nous différencie, c'est plutôt sur le plan biologique. Il y a la femme, le masculin et le féminin. Mais en soi, nous sommes tous des êtres égaux devant la loi. Donc les femmes peuvent voter.
Elles ont le droit.
Elles ont le droit de voter et d'être aussi, enfin de se poser en tant que candidat et courir à une compétition électorale donnée. Donc elles ont ce droit-là.
Voilà, et donc la réponse à votre question. Alors, Monsieur Paul Sapou, on dit élection démocratique, libre et transparente. Quel pourrait être, selon vous, le sens de l'adjectif démocratique lié à élection?
Bien, on ne saura vraiment pas expliquer cela en peu de temps.
Mais c'est ce que vous le disiez à votre fils qui vous demande ça.
Bon, je dirais que ce sont des élections qui doivent se passer dans des conditions où la démocratie est respectée. C'est-à-dire, la démocratie, c'est pratiquement la valeur des valeurs qui permettent à tout un chacun de s'exprimer librement, de voter, de poser un geste à l'élection. Voter donc librement sans qu'une intimidation soit de mise pour permettre à cet électeur d'orienter, disons, sa voix ou de prendre part à une élection malgré cet électeur. Alors, dans les élections démocratiques, dans une démocratie, donc, il faudrait qu'on ne sente pas qu'il y a des intimidations, il ne faudrait pas que l'on oriente le choix, il faudrait que la justice soit faite et non pas dans des conditions, par exemple, comme on a vécu sous le régime passé du feu président Mobutu, où pratiquement il y avait des gros électeurs et de simples citoyens. Par exemple, le chef de l'État, Mobutu, à l'époque, avait été considéré comme un gros électeur, avait lui-même le 50% du corps, si vous voulez, électoral. C'est-à-dire, il devait choisir le 50% des commissaires du peuple. Et les 50% étaient élus sur des techniques peu douteuses des élections. C'est-à-dire, il faut d'abord être, disons, militant aguerri, militant du MPR, etc. Donc, il n'y avait pas un environnement qui permettait de faire une compétition loyale. À partir de ce moment-là, cet électeur qui s'appelle Mobutu et les autres compatriotes n'avaient pas le même poids en tant qu'électeur, en tant qu'élément du souverain primaire. Donc Mobutu avait plus de voix par rapport aux autres. Là, ce n'est pas la démocratie, là, ce n'est pas dans des conditions honnêtes. La démocratie suppose que lorsqu'on a gagné les élections, on accède réellement au poste pour lequel on a, gagné.
On a constitutionnellement droit.
Voilà.
Et lorsqu'on les a perdus, on accepte, etc.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment, les élections démocratiques englobent tout, la liberté, la transparence, la justice. Et si vous voulez, le pragmatisme aussi. Et puisque, au moment où nous votons, nous permettons à chaque électeur de faire un choix. Un choix qui peut être différent des autres électeurs. On accepte. Là, il y a le principe du respect de l'opinion, de l'expression, si vous voulez, de la minorité. Mais tout est fait de sorte que le plus grand nombre, la décision, l'expression du plus grand nombre qui sera considéré dans une élection démocratique, et non pas le contraire, pour prendre la décision de la minorité et l'imposer, la faire passer par devant de ce qu'on pourrait appeler l'opinion du grand nombre, etc. Tout ça s'entre dans les concepts démocratie. Alors, au fait, quand on dit élection, on commence par libre, transparente et démocratique.
Ah, super.
Démocratique, l'adjectif démocratique englobe les tout et on peut étendre des explications pour que les élections soient honnêtes, telles que l'article numéro 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme le dit. Il faut des élections régulières, des élections honnêtes.
Paul Sapou, à la tête de la Ligue nationale des électeurs. Vous êtes depuis très longtemps, depuis plusieurs années, dans la sensibilisation dans l'éducation physique par rapport aux élections notamment. J'ai même cru apprendre que vous avez déjà été observateur de certaines élections en Afrique.
Oui, c'est vrai. Nous avons à peu près 15 ans d'existence. Oui. En tant que Ligue des électeurs, nous avons sillonné le monde et nous avons acquéri une expérience de terrain lors de nos missions d'observation des élections dans le pays où les processus électoraux posaient problème, surtout depuis la fin de la guerre froide.
Dans quel pays notamment?
Notamment en Angola, nous avons, en 1992, nous avons vécu cette expérience qui nous a permis de voir ce qui n'a pas marché en ce moment-là. Mm. Nous avons observé les élections au Congo-Brazzaville, toutes, en 1992. Mm-hmm. Nous avons été en Afrique du Sud à toutes les dispensations électorales qu'il y a eu dans ce pays, mm-hmm. en 1994, 99, et les toutes dernières, etc.
Aussi.
Nous avons été en Zambie, au Sénégal, un peu partout, au Mozambique dernièrement, et pourquoi pas d'autres continents comme les États-Unis d'Amérique.
Vous avez beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Donc, vous avez une lourde expérience à partager avec tous les compatriotes qui nous écoutent.
Tout à fait.
Le Parlement, parce qu'ils nous écoutent dans le monde entier, en direct, maintenant, sur Internet. Des réactions, des suggestions, n'hésitez pas. action@radiookapi.net ou appelez au 081 890 6890.
Radio Okapi. Un partenariat entre la mission des Nations Unies au Congo et la Fondation Hirondelle.
Une question de Kaleni, c'est Matesso qui la pose. Comment peut-on aller aux élections alors que dans certaines provinces, on ne voit pas des candidats aux élections, on ne les connaît même pas. Chez nous, à Kaleni par exemple, nous n'avons vu jusque-là que des représentants des partis politiques. Paul Sapo.
Bien. Je pense que c'est ça le débat. Je ne sais pas si on est déjà en campagne électorale, mais il y a quelques partis politiques qui sont déjà en campagne, qui essaient de sillonner le pays. Mais je pense que lorsqu'on fait du bon travail d'éducation civique électorale, la base, c'est-à-dire la population locale à la base, devrait connaître les grandes dispensations électorales, la typologie des élections, les niveaux, si vous voulez, d'implication d'une localité donnée jusqu'aux élections les plus élevées au plan national. Mmh. Au plan local, il serait bon que les candidatures soient suscitées à travers des personnes vivant sur la localité, sur les territoires,
hommes
et femmes, mais de gens que l'on connaît bien, que la population locale connaît bien, et que Kalemie connaît bien, la population de Kalemie connaît bien. Mmh. Alors, susciter ce candidat-là, ben, évidemment, nous voulons attendre que la loi, nous attendons que la loi électorale nous soit élaborée, et pour voir quelles sont les conditions, quelles sont les typologies de ces élections-là, les conditions pour se présenter comme candidat. Mmh. Est-ce qu'on va aller sur la liste des partis politiques ou bien sur la liste des indépendants? Mmh. Alors, s'il y a cette possibilité d'avoir des indépendants, il y a néanmoins des associations qui peuvent, sur le plan local, se constituer pour présenter, pour parrainer des candidatures de personnes qui conviennent le mieux, qui drainent les masses, qui représentent l'opinion, les leaders d'opinion locales,
qui ont des projets précis,
des programmes électoraux précis, dans lesquels, par exemple, la population, la localité, se retrouve. Là, il y a partout, il y a toujours, partout, même dans chaque localité, des personnes qui font, le consensus par rapport à leur vécu quotidien, par rapport à la connaissance des problèmes qui se posent à la localité. De telles personnes doivent être encouragées à postuler, à se lancer dans la course électorale.
Voilà, c'est une bonne réponse. Il y a Maman José de Kananga qui pose à cette question. L'expérience en Afrique montre que c'est toujours ceux qui sont au pouvoir qui gagnent les élections, même si on signale des tricheries. Elle craint que ça soit le même cas dans notre pays.
Oui, tout à fait. La crainte est fondée par rapport aux élections qu'il y a eu en Afrique depuis que les murs de Berlin tombaient, depuis que la guerre froide s'est arrêtée. Alors, depuis les années 1990 jusqu'à ces jours, on constate que dans 80% de pays qui organisent les élections dites de changement, il y a beaucoup de cas de tricherie et de contestation. Tout ça, c'est dû au fait qu'un pays qui organise les élections, lorsqu'il ne met pas en place une machine électorale, un pouvoir organisateur des élections, qui soit en mesure de gérer, de bien superviser le processus, et souvent, il y a des manipulations, de la tricherie. Et souvent, on constate que cette tricherie est peaufinée, si vous voulez, et raffinée, passez-moi les mots, et raffinée, telle que lorsque le pouvoir organisateur des élections est au service de ceux qui sont réellement au pouvoir, les détenteurs du pouvoir, là, les choses ne peuvent pas marcher. Voilà pourquoi la tricherie commence longtemps avant, même lorsque on négocie mal, on met en place des institutions qui sont animées par des pseudo-animateurs de l'ancien parti qui était au pouvoir ou qui est au pouvoir. C'est ainsi que lorsque les partis uniques sont tombés, à la suite du changement qu'il y a eu, la perestroïka, la glasnost, etc., les partis uniques se sont mués en petits partis animés par les barons de ces régimes qui tombaient. Mais alors, ces gens ont quadrillé, piégé toutes les mutations, étudié les stratégies. Finalement, ils se sont, ils sont revenus au pouvoir, ils ont pris le peuple, en otage. Et ces élections-là n'ont pas du tout donné le résultat escompté. C'est ce qui pourrait arriver chez nous.
Il y a la crainte de cette dame de Kananga. Nous y arriverons, c'est ce cadre d'émission. Tous les jours, tous les vendredis de 10h03 à 10h30, un thème seulement en français, pendant qu'il aura été expliqué pendant la semaine à quatre langues nationales, soit Lichiloba, Kikongo et Lingala, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et le vendredi, nous faisons, avec un invité comme vous, un peu plus d'explications détaillées avec les questions des auditeurs pour expliquer où est-ce qu'on va. Et chacun dans la langue qu'il veut. Et c'est l'occasion pour moi de dire merci beaucoup, Monsieur Paul Sapou, d'être venu aujourd'hui. Je compte sur votre disponibilité prochaine pour continuer à apporter l'expertise, surtout l'explication. Vous le faites depuis 15 ans, par écrit, dans toutes les langues, dans les 5 langues aussi, français, Lingala, Swahili, Kiloba et Kikongo. Mais peu de gens lisent, mais beaucoup de gens peuvent écouter la radio. Aussi loin que les ondes peuvent nous porter. Merci encore une fois d'être venu et à la prochaine.
Merci, je vous exhorte à faire davantage des émissions pareilles. On en a besoin pour cette année électorale, l'année 2005.
Ok, bien, nous allons aborder le quatrième sujet du magazine. Aujourd'hui, il y a d'autres questions qui sont arrivées par rapport à notre rubrique élections, c'est facile à comprendre. Jérôme Tabongoli de Goma, un militaire peut-il poser sa candidature? Patrick de Kinshasa Bandalungwa, pourquoi est-ce qu'on refuserait aux Congolais résidant à l'étranger le droit de voter alors qu'ils sont comme nous fils de ce pays? Thomas de Kananga, combien de candidats avons-nous dans notre pays pour les élections? Ça sera à débattre et à répondre vendredi prochain à partir de 10h03, heure de Kinshasa. Continuez à envoyer vos préoccupations à action@radiookapi.net et nos experts répondront à toutes les question. Joseph Paul de Calémy voulait savoir quoi. Pouvez-vous revenir sur le sujet d'hier, ce rapportant à la translocation du rhinocéros blanc? Si c'est possible, dites-nous quel jour ça passera. Nous voulons avoir la réponse en direct de Okapi Action. Eh bien, on va le faire, cher ami Joseph Poy. Nous sommes en train de nous documenter et de rechercher les personnes qui doivent répondre à toutes vos préoccupations. Ne vous en inquiétez pas, cher monsieur José Mpo et de Kalemi. On va retrouver autre sujet sur Radio Okapi. Okapi Action, merci de votre fidélité et de l'intérêt que vous y portez. On est encore ensemble pour 20 minutes.
Okapi. Okapi à Goma sur 105.2 FM.
Nous le disions en titre, depuis le mois d'octobre, PAM, le Programme Alimentaire Mondial et l'ONG World Vision ont organisé des cantines scolaires à travers quelques écoles de la ville de Goma. Seulement, toutes les écoles ne bénéficient pas de ce programme. Moins de 1% d'écoles seulement en bénéficient. Conséquence, ce programme n'a pas un grand impact sur le terrain pour parler du sujet en direct depuis Goma, notre confrère Jules Ngala Wamona. Bonjour Jules.
Bonjour Walter, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Mais alors, est-ce que vous avez rencontré les concepteurs de ce projet? Leur avez-vous posé la question de savoir comment leur projet n'a pas beaucoup d'impact ou d'abord pourquoi ils ont initié ce projet?
Bah écoutez, les concepteurs du projet, c'est-à-dire le Programme Alimentaire Mondial, appuyé par World Vision, vous le disiez tout à l'heure, ils déclarent s'être rendu compte après investigation qu'au Nord Kivu, les milieux ruraux, surtout, et urbains dans une certaine mesure, s'étaient dangereusement appauvris, cela à la suite de tous les conflits qu'on a connus dans la région. Et craignant à cause de cette pauvreté, beaucoup d'écoliers n'hésitent à retourner à l'école. Ils ont estimé que les cantines scolaires pouvaient constituer une bonne stratégie pour d'abord accroître le taux de scolarisation qui avait tendance à baisser. Et une fois retourné à l'école, la cantine scolaire devrait aider à améliorer les résultats scolaires par une bonne alimentation des enfants. Le projet a été expérimenté dans quelques écoles de Goma, de Rutshuru et de Masisi en avril-mai de l'année dernière. Les élèves avaient reçu ce qu'on appelle ici communément une ration sèche à base de semoule de maïs jaune, du haricot et des sardines en conserve. Ration sèche, ça signifie que ce n'est pas préparé. Et pour l'année scolaire en cours, le projet a repris cette fois-ci avec une ration humide, c'est-à-dire déjà préparée à base des mêmes aliments. Le programme qui est soutenu par le PAM en collaboration avec l'ONG World Vision, je le disais tantôt, est actuellement en application dans 12 écoles primaires de Rutshuru, 6 écoles primaires de Masisi et 4 écoles primaires de Goma, soit pour plus de 10 000 écoliers.
Alors, Gilda, dites-nous, vous avez visité une école primaire à Goma où ce programme des cantines scolaires est fonctionnel. Pouvez-vous nous dire comment ça se déroule?
Tout à fait. L'école primaire que nous avons visitée hier jeudi, c'est l'école primaire Tanganyika, une école qui n'est pas conventionnée, en fait une école non conventionnée comme on le dit ici, qui est située aux confins nord du camp militaire de Katindo à Goma. Voici l'ambiance que nous y avons trouvée.
Allez les enfants, venez manger, alignez-vous convenablement. Allez à la cuisine maintenant. Un, deux.
Mais ils se précipitent là. Bon, comment ça va se passer?
Ils veulent que tout le monde veut être le premier, mais on va les ranger selon l'ordre d'arrivée.
Et après, tout le monde aura...
Oui, oui. Tout le monde aura son plat. Les mamans sont déjà prêtes, vous allez le constater avec nous.
Merci maman. Jules Ngala, première question. Une des monitrices à qui vous avez posé la question si la quantité était suffisante, elle a dit oui. Est-ce que vous, en regardant, est-ce que vous pensez que c'était suffisant pour cet enfant?
Tout à fait, parce que il faut dire, Walter, que pour la circonstance, j'y ai goûté moi aussi.
Et comment c'était?
On m'a donné pratiquement la même ration et je ne me suis pas senti vraiment mal en point après avoir pris ça.
Non, non, mais oui, je ne veux pas dire que c'est mal en point, mais la quantité, vous avez pris la même quantité qu'un enfant, c'était bon hein, ce que vous avez mangé?
Oui, c'est une façon de dire que j'y ai goûté, j'étais content, et sur le plan de la qualité et sur le plan de la quantité.
Ah bah, voilà. Donc cette ambiance d'élèves qu'on a vu invités à la cantine pour recevoir la ration quotidienne servie par des femmes engagées par l'école pour cette fin. Mais en attendant une évaluation du programme par ses concepteurs, est-ce qu'on peut dire que les résultats sont positifs, Jules Galin?
En tout cas, les bénéficiaires, c'est-à-dire les élèves eux-mêmes et leurs parents, et même les enseignants, pensent que le programme en lui-même présente plusieurs avantages. Je vous propose par exemple d'écouter cette dame qui a un enfant à l'école primaire Tanganyika. Pour elle, les résultats sont satisfaisants.
Pame alitupatia chakula, akatupatia bunga, akatupatia maragi, anatupatia masardine, akasema... Makala, matungulu, shie peke vapara, inafaa tukwe tunavitafuta. Na shie na maji, tukaona shie vapara. We mwanamke abata kupa bunga, bakupe mboga, hautakosa makala. Utajiaranje gisi, utapata ile makala. Na leo bali batoto yetu, gisi balikuwa banapata mapwe. Leo banaongezeka. Mapwe kuko mwenye kuwa napata 590, 870.
Jules Galin, est-ce que vous pouvez me faire un bref résumé de ce que la maman, parent d'une élève, écolière de 11 ans de cette école, vient de nous dire?
La maman dit justement qu'elle a un enfant dans cette école primaire Tanganyika. Cet enfant nageait entre 50 et 60% avant la mise en place du projet. Mais depuis que le projet est là, elle a remarqué que les résultats de son enfant sont allés croissant entre 70 et 80% à la fin de la période, ce qui l'a satisfait beaucoup à propos de ce projet justement.
Mmh. Mais cette cantine scolaire présente des avantages, je viens d'entendre notamment, mais tout n'est pas rose dans le monde scolaire des Goma, Rutshuru ou Masisi. Est-ce que... vous avez peut-être eu des confirmations de comparaison par rapport à cette assertion?
Non, absolument non. Hein. Tout n'est pas rose, vous venez de le dire. Il y a plusieurs problèmes qui ne semblent pas être liés directement au projet lui-même, mais plutôt aux modalités de son application et ses conséquences sur le terrain. Le premier problème, vous l'avez déjà évoqué, Walter, c'est que toutes les écoles ne bénéficient pas de ce projet. En prenant seulement l'exemple de Goma, on se rend compte que sur une centaine d'écoles primaires qui fonctionnent actuellement dans la ville, seules 4 écoles primaires bénéficient de la cantine scolaire, soit moins de 10% des écoles de la place. Ce qui fait tout à fait, vous allez vous en rendre compte, des jaloux. À Goma, par exemple, l'école primaire Tanganyika se trouve à côté d'une autre école primaire, l'école primaire Tank Militaire FAC Ex-FAS, comme on l'appelait. Et cette école primaire, tant militaire, FAC, ne bénéficie pas de ce projet de cantine scolaire. Les enseignants ne sont pas contents, comme vous allez le remarquer à travers cet élément.
Quand nos enfants voient que les autres mangent et ne mangent pas, ils sont blessés moralement. Et actuellement, nous enregistrons des réclamations de la part des enfants, mais aussi de notre part, voyant qu'une école que nous avons réussie, une école que locataire, je dirais, qui profite de cette cantine scolaire, mais nous, une école ancienne, nous parvenons à manquer ça en tout cas. Nous condamnons fortement ceux qui ont donné ces projets là-bas. Et par ce fait même, nous enregistrons tant de départs massifs d'enfants, parce qu'ils ne sont pas motivés d'abord. Voir les autres manger et qui sont ici ne pas manger en tout cas. Nous voyons que ça peut être la cause qui fait à ce que nos élèves puissent abandonner les cours.
Et voilà, un témoignage qui, qui ne demandent pas des commentaires. Mais Jules, pour les écoles qui bénéficient de ce projet, y a-t-il tout de même quelques problèmes liés à la mise en œuvre du projet cantine scolaire dans ces écoles?
Tout à fait. Vous avez, par exemple, le fait que ce sont les parents qui doivent pourvoir eux-mêmes à l'énergie avec laquelle il faut chauffer les aliments. Donc, ce sont les parents qui doivent acheter du bois de chauffe ou ce qu'on appelle les makala ici. Ce qui augmente encore, j'allais dire, la charge des mêmes parents, alors que ils devraient se sentir allégés avec la mise en place de ce projet. À part cela, certains parents de certaines écoles, on citera nommément ici l'école primaire Chupuko et l'école primaire Maoua, qui sont des écoles de filles conventionnées catholiques. Les parents de ces écoles ont carrément décliné l'offre, estimant qu'une ration sèche éviterait aux élèves des problèmes liés à l'hygiène au moment de la préparation des aliments à l'école. En plus, les bénéficiaires pensent que la ration aurait dû bénéficier à toute la famille et non pas à eux seuls. C'est le cas notamment des enseignants de l'école primaire Tanganyika qui mangent à l'école alors que leur famille ne peuvent pas manger étant donné que depuis 2 mois, ils n'ont pas reçu leur prime. Toutefois, on peut considérer, Walter, qu'il s'agit là d'une phase expérimentale de ce projet, phase qui convient d'être suivie tout de même. Peut-être qu'on pourrait avoir l'occasion de corriger ainsi les erreurs du passé.
À suivre donc, dossier ouvert. Jules Ngala, merci beaucoup. Ça faisait quand même un bail, hein, qu'on ne vous attendait pas dans OKP Action. Merci d'être revenu dans ce magazine. Bonne journée à Goma. OKP Action, en tout cas, depuis le mois d'octobre, le PAM, World Vision, organise un projet de cantine scolaire à travers quelques écoles de Goma. Moins de 10% d'écoles en bénéficient. Nous avons en ligne depuis Goma, Monsieur Bahati. Votre école bénéficie de ce projet cantine scolaire. Est-ce que ce projet a augmenté le taux de fréquentation dans votre école?
Oui, effectivement, le taux a augmenté et pour les enfants ne viennent plus en retard et le cas d'abandon a diminué.
Donc vous estimez que ce projet a été bénéfique pour votre école?
Effectivement, ce projet est très bénéfique pour mon école, d'autant plus que nous avons plus d'enfants démunis. Nous avons des orphelins, nous avons des enfants de militaires blessés. Nous avons des enfants issus de familles de sinistres de la dernière éruption volcanique du 17 janvier 2002.
Mais ce projet continuera à fonctionner pendant combien d'années dans votre école?
Probablement, c'est un projet test. On nous disait que c'est pour 10 ans au moins.
Mais après 10 ans, est-ce que vous serez en mesure de continuer par vous-même ce même projet au sein de l'école?
Bon, après 10 ans, on verra ce que le pays pourra donner parce qu'il faut qu'il y ait un changement dans ce pays pour que nous puissions continuer avec un tel projet. Il suffit que les parents aient des moyens pour que ce projet continue.
Et nous avons appris que ce sont les parents qui doivent apporter le bois de chauffe ou le makala. Et comment ça se passe?
Effectivement, ce sont les parents. Dans le cadre des partenariats, il y a ce qu'on appelle la contribution locale ou la participation locale. C'est-à-dire qu'au moins pour chaque enfant, 50 francs par semaine, et il mange pendant 6 jours, comme ça pour nous permettre de payer des braises. Nous avons un fournisseur qui nous fournit chaque semaine et nous le payons à la fin du mois.
Il y a d'autres...
C'est difficile, oui.
Il y a des écoles qui ne bénéficient pas de ce projet, notamment des écoles qui sont voisines aux vôtres et ça fait des jaloux.
Bon, effectivement, nous sommes en train de nous démener pour que les enfants de l'école voisine puissent être alignés dans ce programme PAM. Les dossiers déjà introduits par l'hiérarchie scolaire au niveau des PAM pour qu'on puisse soigner ses enfants. Sinon, ça crée de la jalousie, comme vous l'avez dit.
Mais au-delà de ça, est-ce que vous observez peut-être une augmentation d'application chez vos élèves, chez vos écoliers, je veux dire?
Oui, l'application, vous voyez que en titre exemplatif, nous avons eu au moins 1216 participants aux examens. Nous avons réalisé 1015 réussites, ça fait 83%.
Et avant que le projet ne commence, quel était le taux de réussite dans votre école?
Bon, le taux de réussite variait entre 78 et 80.
Voilà, Monsieur Bati, je rappelle que vous êtes directeur de l'école primaire Tanganyika. Votre école bénéficie de ce projet cantine scolaire mis en œuvre par le PAM et World Vision. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite bonne journée à Goma. École. Et Okapi Action, c'est terminé pour aujourd'hui avec ce sujet école. Pour tous les auditeurs, nous disons merci d'avoir réagi. On se retrouve lundi prochain, toujours avec le même Brésil, c'est RA 9h02 à Kinshasa.